L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, j'ai eu un verset qui est venu dans mon esprit, qui a flashé dans mon esprit. C'est 1 Jean 3, verset 8. Parce que ce matin, il y a un certain nombre d'entre vous. Vous devez prendre des résolutions dans votre vie. Il y a un certain nombre d'entre vous, vous êtes là depuis des années avec les mêmes problèmes. Et il est temps que ça change. Dis à ton voisin, il est temps que ça change. Et dis-toi à toi-même, il est temps que ça change. Amen. Et il y a des temps, vous savez, dans nos vies où nous devons prendre des résolutions. Il y a des temps où nous devons prendre des décisions. Parce que parfois, nous nous retrouvons dans une espèce de torpeur, un endormissement. Que ce soit dans notre vie, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, bien sûr, mais aussi quand nous connaissons Christ. Et frères et sœurs, il y a des moments où si vous voulez connaître vraiment des choses exceptionnelles de Dieu, il y a comme des portes qui doivent s'ouvrir, il y a des verrous qui doivent sauter. Parce que vous prenez des décisions. Et ce matin, plusieurs d'entre vous, vous avez des décisions à prendre par rapport à ce que je vais vous dire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Celui qui commet ou qui vit ou qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit ici, « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Que chacun puisse dire « Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable dans ma vie et dans la vie et dans la vie de ceux pour qui je prie. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus n'est pas venu pour nous donner une doctrine. Jésus n'est pas venu pour nous caresser, entre guillemets, vous comprenez ce que ça veut dire. Jésus n'est pas venu simplement pour nous dire, « Oh, voilà, tu as tes petits problèmes, tes gros problèmes. Bah, écoute, hein, je vais essayer de faire ce que je peux. » Non, Jésus a paru pour détruire. Vous savez ce que c'est que détruire? Détruire les œuvres du diable. Dieu veut construire ta vie, mais il a besoin de détruire des œuvres. C'est les œuvres que le diable a prévues, que le diable a faites, a construites dans ta vie. Et le Seigneur, ce matin, m'a vraiment mis cette urgence dans mon cœur, dans mon esprit, pour vous donner ce message, pour vraiment vous faire prendre des décisions, pas pour vous encourager ce matin. Ce n'est pas un message d'encouragement, c'est un message de décision ce matin. C'est un message de décision. À la fin de ce message, tu dois prendre une décision. C'est ton choix. Moi, je livre le message. C'est la parole de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Maintenant, tu dois prendre des décisions par rapport à ce que tu vas entendre. Et tu feras ce que tu voudras avec ce message. C'est ta responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de te donner ce message. Le message que j'ai reçu dans mon cœur. Regardons ensemble ce que la parole de Dieu va nous dire dans Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. On va parler de ce que c'est que les joues, les oppressions du diable. Parce que malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent avec des joues. Et ces joues-là doivent être brisées, peuvent être brisées. Et il y a des temps dans nos vies, frères et sœurs. Vous voyez, il y a des temps où vous apprenez la parole de Dieu, il y a des temps où vous priez, il y a des temps où vous obéissez à la base au Seigneur et vous grandissez. Mais il y a aussi des temps de décision. Des temps où maintenant tu dis, ça suffit, il y en a ras-le-bol, ça doit cesser ça, ça doit changer dans ma vie. C'est des temps de décision. Et cette décision doit être basée bien évidemment par rapport à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient quoi ?» Sous l'oppression ou sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il y a des oppressions sataniques. Il y a quelque chose. Il y a des choses sur lesquelles le diable a des mains mises sur les êtres humains. Et Jésus est venu pourquoi ? Pour les détruire. Jésus est venu pour détruire ces choses-là. Et il y a des temps particuliers, je vous dis, où le Seigneur doit descendre dans les vies et transformer les vies. Parce que tu peux avoir donné ta vie à Jésus et encore être esclave d'un certain nombre de choses. Soyons bien clairs. L'évangile, les fondations de l'évangile doivent rester les mêmes. Les gens viennent dans les églises de plus en plus aujourd'hui parce qu'ils veulent se sentir bien. Je suis désolé, on ne vient pas à l'église parce qu'on veut se sentir bien. On vient à l'église parce qu'on veut louer et adorer Dieu et marcher dans notre liberté en Christ. On n'est pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là pour réunir des gens. On est là pour construire le royaume de Dieu. On est là pour voir des vies transformées. Amen. Et si vous voulez voir des vies transformées, il faut d'abord que votre vie soit transformée. Parce que sinon, vous allez faire des gens à votre image. Vous allez amener des gens qui vont être dépressifs, vous allez les laisser dans la dépression. Parce que vous-même, vous êtes dans la dépression. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur est venu pour construire nos vies et faire couler sa vie en nous. Et ce que Dieu veut, c'est détruire des choses ce matin, croyez-moi. Dieu, tout à l'heure, le pasteur Jérémie nous partageait cette parole, que Dieu est un guerrier, et ça c'est vrai. Il y a l'aspect de la douceur, de la bonté, de l'amour de Dieu, mais il y a des moments où Dieu descend et détruit des choses diaboliques, des joues sataniques, des joues sataniques. Jésus a dit dans Jean 8, 32, une parole que tous les chrétiens connaissent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, vous affranchira. La vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si je connais Christ, je dois marcher dans ma liberté. Mais quand je vois beaucoup de chrétiens, on a l'impression qu'ils marchent dans un espèce d'esclavage, dans des trucs bizarres. Il est temps pour toi de comprendre qu'il y a une liberté en Christ. Et cette liberté, tu dois y marcher. Tu dois y marcher. La Bible nous dit qu'on doit faire la différence. On verra la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Est-ce que dans ta vie, on voit la différence? Ou est-ce que tu es en train de te faire envahir, que tu continues, parce que peut-être dans ta vie passée, il y a eu certains problèmes que tu as vécu? Est-ce que tu continues à vivre une vie qui est complètement en dessous du standard divin? Si c'est le cas, mon frère, ma sœur, il est temps de te réveiller, il est temps de sortir de ta coquille, il est temps de sortir de la prison parce que la porte est ouverte. Jésus a ouvert la porte, tu dois sortir maintenant. Pourquoi tu restes encore dedans? T'as pas à rester dedans, tu as à sortir, tu dois sortir. Tu dois marcher à la lumière de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Ici, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Tu dois marcher dans une liberté parce que Jésus veut que tu marches dans la liberté qu'il t'a acquise. Jésus a souffert pour que tu puisses être libre et marcher dans ta liberté, être libre de toute oppression satanique, d'être libre de tout joug satanique. La parole de Dieu nous parle de cette liberté. Regardons encore ensemble. Galates 5, il y a plein de versets sur la liberté que nous devons avoir, dans laquelle nous devons marcher. La Bible nous dit, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pas pour que tu restes avec des joues. C'est pas pour que tu restes malade. C'est pas pour que tu restes oppressé dans tes pensées. C'est pas pour que tu restes quelqu'un qui est finalement, bon, tu es un adhérent à l'évangile. Non, tu n'es pas un adhérent à l'évangile. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es quelqu'un qui est libre dans ton esprit et ça doit se manifester dans ta vie. Maintenant, c'est ton choix. C'est ton choix. Ta foi va jouer bien sûr un rôle prédominant. Mais d'abord, nous allons voir. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une liberté qui vous appartient. Dieu vous a ouvert cette prison. Tu dois apprendre à sortir de cette prison et de dire ça suffit maintenant. Ça, je l'ai accepté suffisamment dans ma vie. Je l'ai accepté suffisamment dans ma vie. Ça suffit. Je veux que ça change maintenant. Vous savez, il y a trop de choses que les chrétiens acceptent, trop de joues que les chrétiens acceptent. Et il y a des temps où tu dois prendre des décisions par rapport à ces joues. Tu dois dire non, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Tu ne peux pas accepter l'inacceptable dans ta vie. Sinon, ça veut dire que finalement, tu dégrades le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que tu dis, ben non, finalement, Jésus n'a fait que ça pour moi. Non, Jésus n'a pas fait que ça pour toi. Maintenant, il faut que tu prennes ta liberté. Il faut que tu dises, ça suffit maintenant, je ne veux plus entendre parler de ça dans ma vie. Il y en a marre, c'est fini, je n'accepte plus l'inacceptable. Si tu continues d'accepter l'inacceptable, tu vis avec ça et tu as tort. Parce que Dieu veut t'amener à la liberté, veut que tu rendes que cette liberté qu'il t'a donnée en Christ puisse être manifestée dans ta vie. Maintenant, c'est ton choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton choix. Mais trop de chrétiens restent esclaves de tout un tas de trucs, de tout un tas de joues. Pourtant, la parole de Dieu nous parle de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, versets 18 à 21. Je vous donne quelques écritures et je ne vais pas faire des enseignements comme j'ai l'habitude de faire. Parce que ce que je veux ce matin, c'est que vous soyez stimulés et qu'on prie pour vous. Parce que il y a des gens, ici même, dans cette église, vous ne pouvez pas rester dans la condition dans laquelle vous êtes. Il est temps que vous changiez. Il est temps que vous preniez la décision de changer. Et ce matin, c'est une opportunité. Mais c'est une décision que vous devez prendre. Et ce n'est pas demain ou après-demain. Ça va être ce matin que tu dois la prendre. Parce que si tu ne veux pas la prendre ce matin, tu ne la prendras jamais et tu resteras toujours esclave de certaines choses qui te dominent. Maintenant, il est temps. Il est temps que tu veuilles, que tu désires. Et que tu dises vraiment, moi, je veux marcher dans cette liberté. Je veux vivre un réveil dans ma vie puissant. Le réveil, oui, est là, dans ton cœur. Ça a été dit tout à l'heure, et c'est vrai. Il y a juste besoin qu'il se manifeste. Et aujourd'hui, ce qui bloque le réveil dans ta vie, c'est simplement tous tes trucs dans lesquels tu es esclave. Et il faut que tu en sois libéré. Et choisis d'en être libéré maintenant. C'est le temps. C'est le temps, c'est l'heure. Parce que Christ t'a acquis cette liberté. Donc prends cette liberté. Et la création, regardez bien, verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça c'est prophétique, c'est vrai, dans l'éternité, mais c'est une chose réelle aujourd'hui. Le monde attend de voir briller l'Église. Quand l'Église est constamment avec ses problèmes, ses machins, ses bidules, que les chrétiens ne font pas la différence, le monde n'est pas attiré vers Christ. Parce que sachez une chose, le monde voit Christ au travers de qui ? L'Église. Est-ce que vous êtes là ce matin ? Le monde voit Christ au travers de vous et de moi. Si je brille, si je marche dans ma liberté en Christ, le monde voit cette révélation des fils de Dieu. Et dit, waouh, j'ai envie d'être comme ces gens-là. Et à ce moment-là, tu prêches Christ. Et croyez-moi, les conversions se multiplient. Elles se multiplient très facilement. Souvent, nous ne voyons pas de gens qui se convertissent parce que l'Église est complètement malade, que les gens sont complètement esclaves de toutes sortes de trucs, de joues sataniques. Et alors, les gens voient et se disent, mais pourquoi être comme eux ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Par contre, quand vraiment tu es rempli, quand tu es joyeux, quand vraiment il y a plein de choses que Dieu fait dans ta vie, mais les gens sont attirés. Tu n'as pas besoin de leur dire, oh tu sais, tu devrais connaître Jésus, oh tu sais, Jésus, il peut te rendre libre. Et puis la personne te voit complètement esclave de tout un tas de trucs. Soyons bien clairs, frères et sœurs, l'Église doit se lever. L'Église doit se lever et marcher dans sa liberté. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que cette parole va nous dire. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ? C'est vous et moi. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption. C'est vrai que c'est dans l'éternité. Mais regardez bien, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et cette liberté commence aujourd'hui. Elle commence en Christ. Elle commence avec l'Église. L'Église a été glorieusement libérée. Elle doit marcher dans sa liberté. Alors pourquoi est-ce que tu restes dans la prison ? La porte a été ouverte. La porte a été ouverte. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu choisisses de marcher dans cette liberté. Parce que la parole de Dieu nous parle que l'ennemi est un destructeur. Regardons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le voleur ne vient que, verset 10, ne vient que pour voler ou dérober et tuer ou égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que mes brebis, les brebis aient la vie. Mais pas seulement, regardez bien ce que Jésus ajoute. Pas seulement la vie en quoi ? En abondance. Alors pourquoi tu vis avec un petit flot, quelques gouttes ? Ça veut dire que tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Tu ne vis pas dans la plénitude que Dieu a pour toi. Alors pourquoi Jésus a dit ça ? Parce qu'il fallait rajouter quelques mots à sa petite phrase ? Pas du tout. Parce qu'il y avait une puissante vérité derrière ça. Il y avait une puissante vérité. Certains d'entre vous, vous êtes esclaves de mentalités pourries religieuses. Ça vous pourrit la vie, complètement. Quand on commence à parler de certaines choses, vos mentalités religieuses sont tellement ancrées en vous qu'elles vous pourrissent la vie. Et le problème, c'est que tu ne le réalises même pas encore aujourd'hui. Et il est temps que tu sortes de ces mentalités religieuses. Il est temps que tu en sois libéré. Que tu dises vraiment, ça, je n'en veux plus. Moi, ce que je veux connaître, c'est vraiment cette plénitude dont le Seigneur me parle. Je veux refléter Christ. Tu en es esclave de cette mentalité pourrie. Toutes ces choses qui ont été construites dans ta vie. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est le reflet de ce que tu as cru, de ce que tu as pensé et de ce que tu as dit depuis hier. Hier, vous comprenez que ce n'est pas il y a 24 heures. Mais c'est toute la vie qu'il y avait derrière. La parole de Dieu nous dit de choisir entre la vie et la mort. Et c'est vrai que c'est pour le salut, mais pas seulement pour le salut. C'est dans chaque domaine dans lequel on peut avoir un esclavage dans nos vies, frères et sœurs. Tu es esclave de ce qui triomphe de toi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qui triomphe de toi, tu en es esclave. Et il y a différents types d'esclavage. Le premier esclavage, bien sûr, c'est l'esclavage du péché. Jean 8, 34. La parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. On a lu le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Christ, et la vérité vous rendra libre. Ok. Maintenant, la parole de Dieu nous parle au verset 34. Jésus nous parle encore. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché ou se livre au péché ou pratique d'une manière globale le péché, qu'est-ce qui se passe? Il est esclave du péché. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de problèmes de péché. Il n'y a pas beaucoup de amen. Le mot péché, ça devient rare. C'est presque interdit d'être prononcé maintenant. Eh bien non, moi je le prononce. Et ça ne me gêne pas, parce que c'est dans la Bible. Et ça reste une des fondations de l'Évangile. Et que jamais, jamais, à eux vécu, vous n'enleviez ce mot de vos prédications. Parce que c'est quelque chose qui vraiment fait partie de la base, des doctrines de base, de la parole de Dieu. On n'est pas là pour faire des adhérents. On est là pour amener les gens à des transformations par la puissance de Dieu. Et si ta vie n'a pas été transformée, c'est que tu es encore esclave. Et tu as besoin d'être libéré. Maintenant, c'est ton choix. Ton choix. Qu'est-ce que tu veux ce matin? C'est à toi de choisir. Soit tu choisis d'être libéré, soit tu choisis de continuer à marcher dans l'esclavage. Mais dommage pour toi, parce que d'abord, marcher en tant qu'esclave, ça fait mal. Tu n'as pas de liberté. Tu es avili, c'est-à-dire tu es écrasé. Et le diable rigole bien quand c'est ça dans ta vie. Le diable aime bien quand l'homme est asservi à quelque chose. Parce que quand l'homme est asservi à quelque chose, il ressemble à une bête. Il ne reflète plus du tout ce que Dieu a fait de l'homme quand il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à quoi? À son image. Donc il reflétait la gloire de Dieu. Et ce qui avilit l'homme, bien sûr, c'est le péché. Un autre esclavage, nous l'avons vu dans Actes 10, 38, c'est bien sûr la maladie. La maladie est un esclavage. Jean 10, 38, on revient sur ce verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lui faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'oppression du diable. Donc la maladie est quoi? La maladie est une oppression. La maladie est une oppression. La maladie est un esclavage. Et Christ est mort pour que tu marches dans ta liberté. Là aussi, c'est un choix. Il y a certaines personnes qui aiment un petit peu, entre guillemets, à garder certaines maladies. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien se plaindre. Mais mon frère, ma sœur, il est temps que tu te réveilles. Vous savez, il y a des gens, ils veulent avoir toujours quelque chose qui ne va pas très bien pour qu'on ait pitié un peu d'eux, qu'on s'occupe d'eux. Et ça, c'est une mentalité qui n'est pas une mentalité divine. Libère-toi de ce genre de mentalité et libère-toi de ta maladie. Choisis de marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. parce que tu glorifieras Dieu en montrant vraiment que tu as été entièrement guéri par lui, et tu pourras dire, Seigneur, merci, parce que j'étais esclave de ça, mais maintenant, j'ai trouvé ma liberté en toi. Et ça, ça t'appartient. La prison est ouverte. Sors. Reste pas dedans. Ne reste pas dedans. Si tu restes dedans, c'est ton choix. Mais Jésus a ouvert la prison. Jésus a ouvert la porte. Donc maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Soit marcher encore dans l'esclavage, soit marcher dans ta liberté. Ça t'appartient, tu as juste à prendre et à dire « Seigneur, merci ». Et tu as juste à dire au diable « Satan, ça suffit ces histoires. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus cette mainmise dans ma vie. » Ça, c'est ton choix. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu feras ce que tu voudras à la fin de ce serment. C'est ton problème. Ce n'est plus le mien. La pauvreté aussi, le manque, les dettes, dans 2 Rois 4. Les dettes, c'est un esclavage. 2 Rois 4. On voit cette femme qui était veuve, qui s'est retrouvée dans des conditions difficiles. Elle était bourrée de dettes. Et Dieu est intervenu et elle l'a libérée de l'esclavage des dettes. Parce que les dettes, à outrance, c'est un esclavage. Les gens sont là, ils s'enfoncent dans les dettes, ils s'enfoncent dans les dettes, ils s'enfoncent dans les dettes. Et après, ils ont des ennuis. Ils ont des ennuis avec les banques, ils ont des ennuis avec les huissiers. Enfin, je ne sais pas comment vous les appelez ici, si c'est des huissiers qui viennent reprendre les biens, etc., etc. Et il y a des gens qui ne dorment plus à cause de dettes, des chrétiens qui ne dorment plus à cause de dettes. Des chrétiens qui sont remplis de dettes et qui ne savent plus comment s'en sortir. Ça aussi, c'est un esclavage. C'est un esclavage. Et Dieu veut libérer de cela aussi. Dieu est capable de libérer de ces choses. Ici, Dieu a fait un miracle au travers du prophète. Parce que la parole de Dieu, une femme parmi celles des fils des prophètes, c'était une femme d'un serviteur de Dieu, cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort, elle s'est retrouvée veuve. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Le joug des dettes, c'est aussi un esclavage. Et puis, Dieu va faire un miracle extraordinaire de provision. Les oppressions sataniques, c'est aussi un esclavage. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Jésus va guérir quelqu'un, une femme infirme, depuis 18 ans. Et Jésus va faire un commentaire, une fois que cette femme a été libérée. Il va parler justement de cet esclavage. Verset 10, Luc 13. Jésus enseignait dans une des synagogues, un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit et lui adressa la parole et lui dit. En fait, Jésus la vit et l'appela directement. Il appela cette femme parce qu'il avait reçu un don spécial de foi. Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, verset 14, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours... pendant lesquels il faut travailler, donc venez vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, regardez, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Les oppressions spirituelles. Là, c'était dans un corps. Il n'aurait pas fallu détacher ce lien le jour du sabbat. Et ça a mis en colère tous les religieux. Tu es peut-être esclave de tes mentalités ce matin. Quand le Saint-Esprit commence à agir quelque part, dans ta mentalité, tu te mets en colère. Il faut que tu changes. Amen. Vous priez pour un réveil? Vous priez pour un réveil? Vous voulez un réveil dans cette église? La première chose qu'il va falloir faire, c'est se libérer de toutes les mentalités religieuses. Parce que ce qui empêche le plus le réveil, ce qui s'oppose le plus à la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est les mentalités religieuses. Si vous ne me croyez pas, lisez les évangiles. Relisez les évangiles avec cette optique-là. Vous allez découvrir que Jésus, le plus d'opposition qu'il a reçu, ce n'est pas les prostituées. Ce n'est pas les bandits. Ce n'est pas les criminels. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'était même pas des Romains. La plus grande opposition que Jésus a connue, c'était parmi des gens qui se croyaient marcher, qui pensaient marcher avec Dieu, mais qui avaient des mentalités sataniques, qui étaient liées par des mentalités sataniques, des mentalités religieuses, des mentalités où à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, ils se mettaient ensemble pour le critiquer, pour s'opposer directement à lui. Quel type de personne tu es ? Pose-toi la question. Quand le Saint-Esprit commence à agir, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Il y a des gens qui s'y opposent. Ils s'opposent à tout. Toute la vie de l'Esprit s'y oppose. Ils s'opposent tout le temps à tout. Quand le Saint-Esprit commence à bouger quelque part, ce sont les pompiers spirituels. Ils viennent et ils éteignent le feu, entre guillemets. C'est une catastrophe, ces gens-là. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu es peut-être lié par des mentalités. Il va falloir que tu changes. Si on veut un réveil dans une église, ça commence par un changement radical. Ça commence par marcher dans notre liberté en Christ, d'être rempli du Saint-Esprit, de sa puissance, d'être libéré de nos mentalités religieuses, nos idées préconçues sur comment Dieu devrait faire selon nous. Je vais te dire une chose, Dieu n'en a rien à faire de la façon dont toi tu penses que les choses devraient s'opérer, la façon dont les choses devraient s'opérer. La plupart des gens ou des églises qui ont vécu des moments forts et des réveils dans l'esprit, le serviteur de Dieu lui-même était étonné de voir comment le Seigneur agissait. Parce qu'il avait sa conception personnelle, comme d'ailleurs tous les chrétiens. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit venait et faisait des œuvres merveilleuses. Et là où ça a duré et là où ça a apporté des fruits, c'est quand les gens se sont dit, Seigneur, c'est toi qui agis. C'est vrai, je ne comprends pas, mais Seigneur, je me soumets, bienvenue. Parce que c'est facile de chanter « Bienvenue, Saint-Esprit ». Mais c'est une autre chose quand le Saint-Esprit commence à bouger et que ça ne nous plaît pas. Amen. Et ça, on le voit souvent. On le voit très souvent. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, mais si c'est Dieu qui est en train d'opérer ça. Tu n'es pas d'accord. Sois libéré de tes mentalités. Si tu ne veux pas faire ça, tu ne t'épanouiras jamais en Christ, tu ne brilleras jamais, tu ne seras jamais l'instrument. Et bizarrement, tu pries pour être un instrument. Tu pries pour être un instrument et tu as raison de prier pour être un instrument. Je pense que tout le monde ici prie pour être un instrument. J'espère en tout cas. Ou alors sinon, on va prêcher l'évangile et vous allez vous convertir. Soyons clairs. Soyons clairs. Si tu pries pour être un instrument, tu dis, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, non ? C'est pas ça que tu pries ? J'espère, mais oui, tous les jours, j'entends bien ça, tous les jours, avec l'accent québécois, tous les jours. Tous les jours, c'est pas tous les jours que vous dites. Et c'est bien de prier ça, sauf que peut-être tu seras surpris de la façon dont Dieu voudra t'utiliser et la façon dont Dieu agit. Et c'est là où très souvent les gens sont esclaves de leur mentalité. Le changement commence quand on comprend et qu'on marche dans notre liberté en Christ. Si tu ne veux pas le faire, il ne se passera rien dans ta vie. Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tu peux aller à toutes les réunions de prière matinales du pasteur Joël. Tu peux prier tout ce que tu veux. Si tu ne veux pas changer, il ne se passera rien dans ta vie. Soyons bien clairs. Parce que la prière est indispensable pour voir un réveil, mais la prière seule, sans un désir profond de changement et de désir de marcher dans la liberté que Christ nous a acquis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire. Vous faites un effort dans la prière et c'est très bien. C'est très louable. Il faut continuer à le faire. Et il y a un désir que vous devez avoir aussi, c'est de changer. D'être prêt à dire, Seigneur, si ce que je pense dans toutes ces choses-là, la façon dont tu agis, Seigneur, si ce n'est pas toi, ce n'est pas ta façon de faire, Seigneur, je veux changer. Je veux être libéré de ces mentalités. Et si tu le désires vraiment, Dieu va commencer à agir dans ta vie, tu ne t'imagines même pas. Certains, vous êtes tellement bloqués par des forteresses dans vos têtes qu'il est temps d'arrêter. Pourquoi est-ce que tu luttes contre Dieu ? Tu dis que tu fais les choses, les œuvres de Dieu, mais finalement tu luttes contre Dieu par tes mentalités. Tellement de gens sont comme ça. Tellement de gens sont comme ça. Et c'est un drame pour l'Église de Dieu. Le Seigneur t'appelle à marcher dans la liberté. Le Seigneur t'appelle à devenir puissant. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 68, verset 29. Mais tu peux être puissant si tu marches dans la liberté de Dieu. Jésus ne veut pas que tu marches ni dans le joug du péché, psaume 68, verset 29, ni dans le joug de la maladie, ni dans le joug de la pauvreté, du manque, ni dans le joug des oppressions spirituelles, des mentalités. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ne t'ordonne pas d'être mou. Ton Dieu ne t'ordonne pas de te laisser dominer et d'être esclave. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Puissant, ça veut dire quelqu'un qui est rempli de sa présence et qui amène des changements autour de lui. Parce que lui-même a été changé. Tu n'amèneras jamais la liberté glorieuse des enfants de Dieu si toi-même tu ne marches pas dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tu resteras avec tes trucs, tes machins, et je te dis, ceux à qui tu parleras de Jésus ne seront pas intéressés. Excuse-moi, ils n'auront pas vraiment tort, dans un sens. C'est clair. Tellement de gens ont des esclavages dans leur vie. Tellement de gens sont liés par toutes sortes de trucs, toutes sortes de mentalités, toutes sortes d'oppressions spirituelles, toutes sortes de maladies, toutes sortes de péchés aussi, que finalement, l'Église manque de puissance. Pourquoi l'Église manque de puissance ? Parce qu'elle est liée, trop souvent, qu'elle ne marche pas. Jésus nous a acquis cette liberté, il n'y a plus aucune malédiction sur nous, mais les gens se les attirent, on dirait. Et ça, tu dois changer. Tu dois prendre une décision. Tu dois faire ton choix. Est-ce que tu veux continuer à marcher comme ça avec Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, ce matin, tu veux prendre une décision ? Une décision de marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça, c'est ton choix. Est-ce que tu veux continuer avec ta mentalité pourrie qui s'oppose à toute action du Saint-Esprit ? Ça, c'est ton choix. Il y en a, vous avez été formés comme ça, à bloquer toute l'action du Saint-Esprit dans vos vies. Et vous ne supportez pas quand le Saint-Esprit commence à faire des choses. Ça vous irrite. Il faut que vous en soyez libérés si vous voulez vraiment marcher dans les choses de Dieu. Sinon, vous deviendrez des victimes du diable. Vous savez, le diable rend esclaves les gens et ce sont ses victimes après. On le voit d'ailleurs, les pharisiens ont été victimes d'eux-mêmes. Très peu se sont donnés à Christ, très peu sont nés de nouveau. Après que Jésus soit ressuscité, ils s'opposaient encore au message de l'Évangile. Ils ont été leurs propres victimes par leur propre stupidité, soyons bien clairs. Alors ce matin, tu dois être défié dans tes mentalités. Si vous voulez vivre des choses fortes, des choses puissantes, il va falloir marcher dans la liberté de Dieu. Parce que vous voyez, dans cette église, Dieu veut répandre sa présence avec puissance. Mais sachez une chose, on peut être résistif à la présence de Dieu, ou au contraire, on peut être un conducteur de la présence de Dieu. Tout dépend de notre attitude. Des gens qui ont des problèmes, qui constamment marchent dans des mentalités bizarres, religieuses, ne peuvent pas laisser le Saint-Esprit venir sur eux. Et quand on veut faire de la louange, de l'adoration, et qu'on veut creuser dans la présence de Dieu ne peut pas se répandre comme elle veut se répandre. Vous savez, dans les églises, nous devrions voir des gens être sauvés sur leur chaise. Nous devrions voir des gens être guéris sur leur chaise, simplement parce que nous adorons Dieu, c'est tout. Je dis oui, amen. C'est normalement ce que la présence de Dieu provoque dans les endroits où il y a la liberté glorieuse des enfants de Dieu, frères et sœurs. Et c'est une dimension dans laquelle, si vous voulez voir un réveil, dans laquelle Dieu veut vous amener. Un réveil ne se passe pas par hasard. Un réveil, ce n'est pas Dieu qui vient et qui dit « Ah, j'ai repéré une église ici, à Granby, au Québec, je vais envoyer mon esprit et d'un seul coup, ils vont rentrer dedans. » C'est la soif des cœurs. C'est l'ouverture et se dire vraiment « Dieu, nous voulons te voir. Nous voulons voir Jésus élevé. » Oui, vraiment. Et que ce chant ne soit pas simplement un chant, que ce soit un désir qui brûle dans vos cœurs. Mais pour cela, il faut être libre. Marcher dans cette liberté. Christ nous a affranchis. Maintenant, qu'est-ce que tu fais encore dans la prison? Pourquoi tu restes encore dans la prison? Pourquoi est-ce que tes pensées t'amènent à être incrédule par rapport à ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu restes avec tes vieilles mentalités qui te rendent tellement esclave de toi-même? Tu seras une victime. Moi, je l'ai été pendant des années. Je raisonnais tout, je marchais avec mes mentalités. Je vous garantis, j'étais victime de mes mentalités. Esclave de mes mentalités. Et pendant des années, ma vie chrétienne n'avançait pas. Je sentais cet appel brûlant pour le ministère, mais c'était impossible d'y rentrer. À cause de quoi? L'esclavage de ces mentalités. Certains d'entre vous, vous devez être libérés de ça. Mais vous devez prendre une décision. Parce que vous savez, avec ce genre de mentalité, il y a des oppressions spirituelles qui viennent sur nous. L'atmosphère dans laquelle nous vivons, ce sont des choses qui sont bizarres. Et il y a tellement de chrétiens qui ne vivent pas dans cette liberté glorieuse. Quand tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu n'y arrives même pas. Quand la présence de Dieu est dans l'église, les autres sont bénis, mais toi, tu ne peux pas être béni parce que tu bloques complètement l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Change, mon frère, ma sœur, c'est tout ce que tu as à faire. Tu as simplement à dire, Seigneur, je ne veux plus marcher dans ces trucs-là. Je ne veux plus marcher dans cette espèce d'esclavage bizarre. Mais je veux vraiment m'ouvrir à toi, Seigneur. Et je veux te découvrir tel que tu es. Je veux aller là où je n'ai jamais été avec toi, Seigneur. Si c'est ton désir, mais Dieu va t'amener dans des choses incroyables, merveilleuses. Si tu désires, Seigneur, je veux aller là. Je veux aller là où je n'ai jamais été avec toi. Parce que Dieu veut t'emmener. Christ veut t'emmener. Jésus veut t'emmener par la main. Et il veut t'amener là où tu ne penses même pas que tu pourrais aller avec lui. Mais pour ça, il faut que tu en aies un désir. Il faut que tu en aies vraiment un désir. Si tu as ce désir, ça va se passer. Bien sûr, il y a des choses où tu vas être obligé de renoncer. Il y a des moments où tu vas être obligé de renoncer à tes façons de penser. Tu vas être obligé de renoncer à certaines choses que tu es en train de faire. Et tu devras nettoyer ta vie. Une des pires choses qui bloque le plus les gens, c'est vraiment les mentalités. Les mentalités qui empêchent l'action divine. Et j'aimerais vraiment que ce matin, tu puisses choisir de te remettre en question. Et ce que je veux ce matin, c'est que tu comprennes ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu qui agit dans nos vies. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne viendra jamais faire des choses contre notre volonté. Celui qui ouvre la porte à l'action de Dieu dans sa vie, c'est toi. Le Saint-Esprit ne viendra jamais violer ta volonté, c'est-à-dire forcer ta volonté. Les esprits sataniques le font chez les gens. Satan force les gens, force les êtres humains pour essayer de les oppresser, pour essayer d'entrer en eux, pour les posséder. C'est ce que Satan fait. Le diable force les choses. Le diable force les choses. Dieu ne force pas. Un grand serviteur de Dieu disait, le Saint-Esprit est un gentleman. C'est-à-dire qu'il vient très poliment et te dit, est-ce que tu me permets de toucher à ça dans ta vie? Soit tu dis oui, soit tu dis non. Si tu dis non, le Saint-Esprit se retirera de ce qu'il veut faire. C'est exactement ce que Dieu fait. C'est la façon dont il agit. Dieu n'agit pas pour nous forcer. Dieu n'agit pas du tout pour violer ta propre volonté. Pour te dire, tu dois penser comme ceci, tu dois faire cela, etc., etc. et te forcer à le faire. Dieu te montre et te donne sa parole. Ce matin, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur très fortement. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.